l'architecture paléo-chrétienne. En Occident, elle se limite souvent à l'utilisation des édifices romains existants reconvertis en églises. Les architectes utilisaient ce que la culture païenne romaine leur a laissé en héritage, mosaïques, sculptures, fresques, architecture. La symbolique s'enrichit. De nouveaux éléments comme les baptistères apparaissent. En Orient, elle donne naissance à une architecture originale, l'architecture byzantine. L'architecture byzantine. L'architecture byzantine en vigueur jusqu'au XVe siècle se développe à partir des édifices chrétiens des origines selon le plan longitudinal des basiliques et le plan rayonnant d'édifices comme les baptistères en rotonde ou en forme de polygone. Dédiée à la Sainte Sagesse, en grec Hagia Sophia, soit Sainte Sophie, l'église de Constantinople, édifiée par l'empereur Justinien en 537, est dotée d'une vaste coupole de 32 mètres de diamètre, reposant sur des arcs et épaulée par des demi-coupoles. Elle culmine à 56 mètres de hauteur. L'architecte Anthémios de Trale collabore au début du Ve siècle avec le géomètre Isidore de Milet afin de vaincre les difficultés techniques posées par une coupole aussi haute et d'un diamètre aussi important. L'architecture carolingienne. Cet art se développe entre le 8e et le 10e siècle environ et est marqué par la personnalité de Charlemagne, du latin Carolus Magnus, Charles le Grand. Pendant son règne, on assiste à une véritable renaissance culturelle. L'art carolingien puise aussi son inspiration architecturale dans l'histoire de Rome et renoue avec les édifices à bâtiments centraux comme la chapelle du Palais d'Aix, transposition de l'église Saint-Vital de Ravenne. Le bâtiment central hexagonal est ceint d'un déambulatoire à galeries et à huit côtés. Le trône impérial est placé à l'ouest, face à l'autel. Autre monument de l'époque, l'abbaye de Beauvais, l'église Saint-Germain en Côte d'Or et l'abbaye de Germigny-des-Prés dans le Loiret. L'architecture ottonienne. La dynastie ottonienne commence avec le règne du roi Henri Ier, ancien duc de Saxe, élu empereur en mai 919. L'architecture évolue, amenant dans la nef une première modification. Un pilier sur deux sert de support à un arc, le suivant est traité en colonne. Le principe de l'alternance est développé selon le mode dit saxon, dans lequel deux piliers sur trois sont traités en colonne. L'architecture romane. L'architecture romane se caractérise par sa complexité. L'espace sacré de l'église ou de la cathédrale se divise selon les fonctions propres assignées à chaque salle. Les architectes favorisent le plan dit en halle à nef unique. La poussée latérale s'exerce plus fortement et oblige à créer de nouvelles structures, les contreforts. De beaux exemples d'édifices compacts et massifs jalonnent les chemins du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, Sainte-Foy de Conques, la Madeleine de Vézelay. Le beffroi, du saxon bel, la cloche, et fide, la paix, et dans l'Antiquité une tour montée sur des roues pour assiéger les remparts d'une ville. Au Moyen-Âge, ces échafaudages sont utilisés pour soutenir les cloches dans les tours de pierre. Le degré de soin apporté à leur construction marque la prospérité d'une cité. Les plus célèbres à tour octogonale et soubassement carré sont à Arras, Évreux et Milan. En pays normand apparaît le donjon, monumentale tour carrée qui domine le paysage et sert autant des intentions de défense que d'habitation. Un des plus anciens exemples conservés est la tour de Londres, construite de 1070 à 1090.
N'oubliez pas, l'ABC des abbayes. En 1088, l'abbé Hugues de Cluny, 1024-1109, décide la construction d'une nouvelle église symbolisant la puissance du monastère. La liturgie, construite sur un service choral ininterrompu, oblige l'architecte à prendre certaines mesures. Il en résulte un chœur bénédictin. Un avant-chœur à trois nefs de deux travées de long, avec des collatéraux, et un chœur principal formé d'un chœur carré et d'une abside avec deux chapelles annexes. Les bras du transept ont chacun une abside à l'est, des chapelles entourant l'abside principale. Cluny fut longtemps la plus grande église de la chrétienté avec ses 187 mètres de long et ses 30 mètres de haut. À Clairvaux, les directives de Saint-Bernard, 1090-1153, en matière de construction de couvents et d'aménagement d'abbatiales, sont tranchantes. Ils rejettent l'ornementation et demandent au contraire d'attacher un soin particulier à l'aspect extérieur de l'édifice. Ainsi, une abbaye cistercienne se reconnaît déjà de l'extérieur, à la régularité des pierres posées et au beau travail des murs. Autre signe caractéristique, l'absence de tour. Le fond droit et non rond du chœur, l'absence de vitraux, remplacés par des fenêtres de verre blanc, et l'absence de chapiteaux.
L'architecture gothique. L'art gothique, avant le XIIIe siècle, se trouve localisé dans le nord de la France, concentré autour de Paris, Senlis, Soissons, Beauvais. Les cathédrales de Chartres, de Notre-Dame de Paris et de Saint-Denis en sont les exemples les plus représentatifs. Ses caractéristiques, des piliers monocylindriques, des arcs pénétrant dans le fût, les chapiteaux sont remplacés par une bague et des voûtes à petits carreaux. Ainsi à Paris, l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Siège de Dieu permettant de s'élever vers lui de plus en plus haut, la cathédrale est le monument emblématique de l'architecture gothique. Toutefois, celle-ci revêt des formes différenciées selon les espaces géographiques considérés, France, Allemagne ou Angleterre. On distingue plusieurs périodes. Le gothique primitif couvre une période de 1140 à 1194. Sens, Tournai, Noyon, Laon, Notre-Dame de Paris. Le gothique classique trouve son achèvement à Chartres. C'est l'âge d'or du gothique et les édifices sont de plus en plus hauts. Bourges, Amiens, Beauvais. Avec le gothique rayonnant, 1230-1240, se développe le motif de la rosace sur les vitraux. Le gothique flamboyant, apparu à la fin du XIVe siècle, se prolonge assez tardivement au XVe siècle et entraîne des surenchères dans la décoration.
Un peu de technique. Le temps des cathédrales. Au Moyen Âge, la construction d'une cathédrale est soigneusement organisée et dirigée par un maître d'œuvre. Celui-ci, après une formation de base de 6 ans comme tailleur de pierre, visite d'autres chantiers et s'informe des innovations. Composé d'esquisses, le manuel de Villard de Honnecourt, écrit en 1235, est le journal de voyage d'un tel maître d'œuvre partant de Cambrai, traversant Chartres, Meaux, Laon, Reims et Lausanne, et dessinant des plans, des profils, des sculptures. Les cathédrales suivantes appartiennent également à cette période et à ce style. À Albi, Sainte-Cécile qui ne possède ni bas-côté ni arc-boutant, à Auxerre, Saint-Vincent, à Strasbourg, la façade, à Saint-Nazaire, les tours, à Clermont-Ferrand, la nef. Mais la particularité de Chartres, c'est l'existence de son labyrinthe, figure géométrique présente dans le pavement de la nef principale, le labyrinthe, qui se trouve exactement entre la troisième et la quatrième travée, évolue en arc concentrique sur toute la largeur.
En France, l'architecture gothique, ce sont des cathédrales mais aussi des cités fortifiées. Aigues-Mortes, Avignon, Carcassonne, des palais royaux et des hospices, dont les prestigieux hospices de Beaune. À la fin de la période, le gothique flamboyant se manifeste par une profusion de courbes et de contre-courbes. À Paris, les porches de Saint-Germain-l'Auxerrois, Saint-Gervais, Saint-Étienne-du-Mont, l'hôtel de Cluny manifestent la persistance de ce gothique. Aigues-Mortes est construite sur l'initiative du roi Saint-Louis au XIIIe siècle pour doter la France d'un port ouvert sur la mer et qui lui servirait de base de départ pour sa 7e croisade. La ville est entourée de remparts et dominée par un donjon de 40 mètres de haut. C'est Benoît XII qui fit du palais des papes à Avignon, destiné à être la résidence des papes lorsqu'il résidait à Avignon, un palais fortifié. Mais ses tours carrées en font une redoutable forteresse. Carcassonne possède une enceinte intérieure du XIIIe siècle et une enceinte extérieure ajoutée sous Saint-Louis. Les hospices et les hôtels-dieux à la fin du Moyen-Âge accueillent respectivement les pauvres, les pèlerins et les malades. À Paris, en 1254, est fondé l'hôpital des 15-20 qui pouvait accueillir 300 malades, c'est-à-dire 15 fois 20. Les plus célèbres sont ceux de Beaune du XVe siècle en Bourgogne, aux toits de tuiles vernissées de couleurs. Les palais royaux nous sont connus surtout par les miniatures du XVe siècle, en particulier celles des très riches heures du duc de Berry. De celui de l'île de la Cité, dont la Sainte-Chapelle était l'oratoire, il ne reste que 3 salles dans le palais de justice actuel. Le Louvre et le château royal de Vincennes sont typiques de ces puissantes forteresses. Il faudrait citer aussi les marchés couverts comme la Grange aux Dîmes de province où les chanoines entreposaient les impôts en nature perçus sur les habitants de leur domaine. En Allemagne. C'est l'Allemagne qui conserve le plus longtemps les formes romanes. Alors que les cathédrales gothiques classiques françaises se trouvent déjà en chantier vers 1200, l'Allemagne connaît sa haute période romane. Reconstruction de la cathédrale de Worms avec son riche chœur, rénovation de la voûte romane à Mayence, agrandissement des saints apôtres à Cologne avec le grand bâtiment en forme de conque triple à l'est. La Rhénanie, pourtant, adopte un style de transition dont les détails restent romans, mais où la structure de l'édifice témoigne d'une première influence gothique. En Angleterre. L'Angleterre est, à l'inverse, le pays où le gothique apparaît le plus tôt, car y vit la tradition normande, anticipation du gothique français. Les formes particulières les plus typiques sont élaborées. Le plan présente une tendance à l'allongement. Presque au milieu se trouve un long transept avec, à la croisée, une puissante tour, témoignage le plus visible de la tradition normande. La partie orientale de la nef est coupée par un second transept, beaucoup moins vaste, et nommé « reprochoir ». L'architecture de la Renaissance. À la Renaissance, l'Italie, longtemps ensommeillée, se reposant sur les vestiges de la grandeur de Rome, puis largement dominée par l'Empire byzantin au sud et les royaumes barbares au nord, connaît un réveil spectaculaire. Elle devient l'initiatrice des formes nouvelles d'architecture copiées et modifiées ensuite en France. En Italie, la stratification horizontale est marquée. Au début de la Renaissance, tous les motifs de structure restent plats. S'imposent l'ordre, la symétrie, le rythme. Les monuments s'ornent de décors antiques, tels les chapiteaux, les encadrements de portes, de fenêtres. La construction des palais se développe considérablement, soit en ville, soit à la campagne. L'architecture évolue ensuite vers des structures plus complexes ordonnées autour d'un axe de symétrie. Florence, grâce aux travaux de Filippo Brunelleschi, s'enrichit au XVe siècle de la chapelle des Pazzi et de l'hôpital de San Lorenzo. Le palais Pitti, le plus important de la ville, est exécuté par Luca Fancelli. L'exemple de Michel-Ange marque la plupart des architectes. Giorgio Vasari construit à partir de 1530 le palais des offices qui renfermait à l'origine les différents services de l'administration. Bernardo Buontalenti travaille à la façade de la Santa Trinita en 1593. À Venise, le gothique tardif triomphe à la Ca d'Oro, commencé en 1429. Au palais ducal travaillent Giovanni et Bartolomeo Bon, entre 1430 et 1500. L'architecture trouve en Jacopo Tatti di Sansovino son meilleur représentant. Travaillant à la Libreria et à la Loggetta au pied du Campanile, s'appuyant sur l'architecture classique romaine, c'est lui le créateur de la place Saint-Marc. Mais le plus célèbre reste sans conteste Andrea Palladio, Andrea di Pietro della Gondola, 1508-1580. Toute l'architecture du XIXe siècle sera influencée par ses travaux. Ses voyages en Italie, en Sicile notamment, lui permettent d'étudier l'ordre des colonnes et la répartition des volumes dans l'architecture antique qu'il transpose dans des constructions austères. À partir de 1600, son influence domine dans l'architecture anglaise. Rome prend une importance considérable. Bramante, 1444-1514, dont le style dominera tout le XVIe siècle, puise son inspiration dans les édifices antiques. Le Timpietto, par exemple, le petit temple de San Pietro in Montorio. Il projette aussi de relier le belvédère au Vatican selon une grandiose perspective. À Saint-Pierre de Rome, il donne le plan de la première basilique. Trois autres architectes illustrent les qualités de la vigueur de l'école architecturale romaine. Raphaël, architecte du palais Farnese, Michel-Ange et Giacomo Barozzi de Vignole. En réalisant l'église des Jésuites, Il Gesù, commencée en 1568, celui-ci donne un exemple repris partout en Europe par la suite. Bâtiment de forme allongée aux assises larges, surmontée d'une voûte en berceau, elle ouvre en Europe la vogue des églises à colonnes adossées. En France. Les guerres d'Italie menées à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle mettent les Français en contact avec les raffinements d'une civilisation nouvelle, la Renaissance. Éblouis par la lumière de Florence, de Milan ou de Rome, les princes veulent à leur tour marquer leur époque de bâtiments nouveaux. C'est sur les rives de la Loire ou à proximité que vont s'édifier palais et châteaux. La France passe brusquement du château fort à la résidence de plaisir. Dans les premiers châteaux construits se combinent créneaux, tourelles, fenêtres à croisillons avec l'arc de plein cintre, façades à colonnades et frontons triangulaires. Sous François Ier, dans la première moitié du XVIe siècle, sont édifiés Azay-le-Rideau, Chenonceau, Blois et le plus grand, Chambord, édifié d'après des plans italiens, dont un de Léonard de Vinci. 440 pièces, 74 escaliers, 365 cheminées. À partir de 1525 apparaissent de nombreuses résidences princières, la Muette à Fontainebleau par exemple. Le château de Madrid à Boulogne, édifice à loggia décoré de terre cuite, montre une nouvelle façon de concevoir la décoration. Pierre Lescot travaille au Louvre, chantier dont il conserve la responsabilité jusqu'à sa mort en 1578. Il construit également l'hôtel de Ligueris, dit Carnavalet. Philibert Delorme est chargé de la réalisation du château de Saint-Maur en 1541 et de celui d'Annay en 1547 et 1552. Jean Bulland est l'architecte des coins, le petit château de Chantilly en 1561 et de l'hôtel de Soissons en 1572.
N'oubliez pas, sur le grill, l'Escurial. Commencé en 1563 par Jean-Baptiste de Tolède et terminé en 1584 par Jean de Herrera, l'Escurial, du nom de la ville qui l'accueille à 50 km au nord-ouest de Madrid, s'inspire du schéma général des palais italiens de la Renaissance, mais sa conception reste fondamentalement espagnole. Ce prestigieux édifice est dédié par Philippe II à Saint-Laurent. Le plan général a la forme d'un grill en souvenir du supplice de ce saint. L'ensemble comprend le couvent et l'église royale. Les différents bâtiments sont fort austères, en accord avec le caractère sombre et renfermé du souverain. L'Escurial constitue d'ailleurs un certain anachronisme, par sa sobriété qui l'apparente à une caserne, au moment où les autres souverains renoncent aux murs épais pour multiplier les fenêtres, la lumière et les éléments de décoration extérieure.